Amen. Je vais vous inviter donc à ouvrir avec moi la parole de Dieu à ce sujet. Que ceux qui prennent des notes, vous puissiez comprendre que nous parlerons ce matin de l'épreuve de notre consécration. Ça veut dire que le Seigneur éprouve notre consécration, notre attachement à sa personne. Cela est d'autant plus important que l'apôtre Pierre va encourager les chrétiens de sa génération qui ont connu des épreuves terribles, la persécution, et va leur dire, mais vous savez, il ne faut pas que vous vous étonniez de cette fournaise qui est au milieu de vous. Dieu permet ces épreuves parce que ces épreuves éprouvent votre foi. Ces difficultés, ces problèmes, cette persécution, eh bien, elle est là pour que votre foi soit épurée, qu'elle soit encore plus ferme, qu'elle soit encore plus belle, que Dieu soit loué. Alléluia. La Bible nous dit que suite à la persécution qui a eu lieu lors du martyre d'Étienne, le premier martyr chrétien, eh bien, les chrétiens ont été dispersés. Ils sont arrivés juste dans le bassin méditerranéen, du côté de Chypre. Et là, il est dit que quelques-uns ont parlé dans Actes chapitre 11, si vous voulez une référence. Nous allons lire au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, et nous disons Amen. Il s'est réjoui de voir la grâce de Dieu et ses effets au travers de ce salut d'une multitude, mais il leur dit, eh bien, c'est bien d'avoir cru et de vous être convertis, mais ce n'est que maintenant le début. Je vous encourage, je vous exhorte à rester attaché au Seigneur. Car voyez-vous, bien-aimés, c'est cela l'essentiel. Il ne suffit pas d'avoir connu le Seigneur Jésus un jour, il ne suffit même pas d'avoir commencé à marcher avec lui, mais ce qu'il faut, c'est arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous laisser exhorter par cette parole que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va nous permettre d'entendre. Lorsque, voyez-vous, au chapitre 6 de l'évangile de Jean, l'Écriture nous explique que le Seigneur Jésus va dévoiler un mystère, une vérité tellement importante que nous venons de vivre encore ce matin. Jésus va dire que sa chair est une vraie nourriture et que son sang est véritablement un breuvage. Eh bien, face à cette révélation, cet enseignement spirituel très fort, eh bien, certains vont être choqués. Et nous lisons ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Au verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 59. Donc on dit maintenant, nous allons au verset 66. Il est dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Ce matin, voici cette parole qui est là pour nous aider à comprendre que le Seigneur Jésus, il va profiter de cette occasion où il voit un groupe de personnes le quitter, s'en aller, s'éloigner de lui, pour poser cette question à ses disciples. Alors, et vous? Vous ne voulez pas faire aussi comme les autres? Et vous? Vous voulez toujours continuer à être avec moi? Ne voulez-vous pas aussi suivre le mouvement? Jésus, en disant cela à ses disciples, ne veut ni les décourager, encore moins les chasser. Mais Jésus les interpelle afin qu'ils puissent se positionner, afin qu'ils puissent, eh bien, eux-mêmes dire de leur bouche ce que Jésus attendait d'eux. L'engagement à suivre Jésus, c'est la plus belle et la plus grande et la plus élevée des décisions que l'homme ou la femme puisse prendre. Mais il ne suffit pas, eh bien, de décider de suivre Jésus sans mesurer le prix que cela va coûter et sans réfléchir à la fermeté de notre décision, de notre engagement à le suivre. Jésus dit à ses disciples, les 12, « Et vous ?» La réponse que Pierre va donner ce matin, elle est celle dont vous et moi avons toujours besoin de nous rappeler afin qu'elle nous garde fidèles et debout jusqu'à la fin. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle, mais à cause de la faiblesse de la chair, nous avons besoin de nous rappeler jour après jour, année après année, qu'une chose est sûre et certaine, c'est que nous n'irons à personne d'autre si ce n'est qu'à Jésus. Alléluia. Nous voulons dire, Seigneur, quelles que soient les épreuves et les circonstances, quels que soient les événements, quelles que soient les tentations, Seigneur, moi, j'ai fait le choix de te suivre, alors je suis prêt à renoncer à tout et à moi-même afin de ne jamais te quitter. Oui, je veux rester attaché à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mes amis, alors, dès lors où on a cette résolution dans le cœur, la parole de Dieu, eh bien, nous aide ce matin à comprendre que oui, malgré la faiblesse humaine, malgré la chair et sa faiblesse, eh bien, nous tiendrons jusqu'au bout parce que c'est là la volonté de Dieu à notre égard. Le Seigneur Jésus est venu nous chercher puisqu'il nous a trouvés. Il ne veut pas nous perdre. Il veut que vous et moi, nous puissions rester fidèles, attachés à lui, afin qu'après avoir vu son abaissement sur la croix, son humiliation ici-bas, nous puissions voir sa gloire éternelle. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il est important que nous puissions dire, oui Seigneur, si tu me poses la question, eh bien moi aussi je veux te répondre, à qui d'autre irai-je qu'à toi? Cela, ce matin, nous interpelle, mes amis, parce que cela doit nous amener à nous poser la question sur nos mobiles et nos motivations. Pourquoi nous suivons Jésus? Est-ce à cause de papa ou de maman? Est-ce à cause des copains et des copines? Pourquoi nous suivons Jésus? Est-ce parce que nous recherchons un intérêt particulier? Parce qu'une jeune femme, là, toute belle, toute mignonne, eh bien, nous invite et on veut suivre le Seigneur parce qu'on veut l'épouser? Oh, quelqu'un sourit à cela. Quels sont mes mobiles et mes motivations? Pourquoi je veux suivre Jésus? Est-ce à cause de ce que le prédicateur annonce en disant, tu verras, ta vie va changer, tu verras, il va te guérir, tu verras, il va te secourir, tu verras, il va te bénir. Est-ce que je viens pour cela? Ou alors, je me suis engagé parce qu'on m'a dit que je deviendrai une nouvelle créature, que les choses anciennes seront passées, toutes choses deviendront nouvelles. Alors, je veux m'engager pour cela. Et si je ne vois pas de changement que j'attendais? Et si je ne vois pas la bénédiction que j'espérais? Comment faire? C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous dit, alors et vous? Parce que voyez-vous, ceux qui l'ont quitté, la Bible nous a dit, parce qu'ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais en réalité, parmi la foule, je vous invite à lire le début du chapitre, vous vous rendrez compte que c'est parce que parmi cette foule immense, la Bible dit, elle suivait Jésus parce que cette foule voyait quoi? Les prodiges et les miracles qu'il opérait. Et la foule s'est encore augmentée quand Jésus a multiplié le pain pour les, pas seulement les nourrir, mais pour les rassasier. Et donc, on veut bien suivre un tel maître. Un maître qui, quand il parle, eh bien, on écoute ses paroles avec plaisir. Car jamais homme n'a parlé comme cet homme. Un homme qui, eh bien, lorsqu'on est là, dans un lieu pas du tout favorable, un lieu quelconque, il est capable, avec seulement quelques pains et quelques poissons, de nourrir une foule immense. Ah bien oui, on veut suivre cet homme. Nous voulons bien suivre ce maître. Donc, voyez-vous, le maître ne se fiait pas à cette foule parce qu'il n'était pas venu pour gagner une popularité quelconque, mais il était venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pourquoi ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas la foule. Ce qui intéresse Jésus, c'est l'âme de chacun d'entre nous ce matin. Car notre âme a du prix aux yeux de l'Éternel, le Créateur. Et puisque le péché est venu nous séparer d'avec le Créateur, Jésus, dans son immense amour, est venu pour nous arracher à la malédiction du péché et nous réconcilier avec Dieu pour que nous puissions entrer dans le royaume éternel du Père. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Ce matin, puissions-nous donc comprendre, eh bien, les mobiles et les motivations qui peuvent, eh bien, nous pousser à suivre Jésus ou alors à nous arrêter et peut-être à nous retirer. Ce matin, il est important que nous puissions réaliser ce que l'apôtre répond, qui va aider chacun d'entre nous à garder la foi, à persévérer jusqu'au retour de Jésus qui est proche. Que son nom soit béni. Amen. L'apôtre dit ceci, « Seigneur, à qui autre irions-nous qu'à toi ?» Et deuxièmement, il ajoute, toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Et de quelle vie? La vie éternelle. Et l'apôtre, il précise, Seigneur, nous avons cru. Et nous savons maintenant qui tu es. Voilà pourquoi, Seigneur, cela est suffisant pour nous pour ne jamais t'abandonner, pour ne jamais nous retirer. Seigneur, nous savons qui tu es, nous savons ce que tu as et nous savons également eh bien, que tu nous as donné la révélation de ta personne et nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez compris? Oui. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a plus rien. Que Dieu, dans sa grâce, donc, te le rappelle, me le rappelle, mon frère, ma sœur, au jour de la tentation, au jour de l'épreuve, au jour où tu serais sur le point de dire, mais si c'est ça, ben j'arrête tout. Vous savez, des fois, on est tenté de dire ça. Hein? Ben, si c'est ça, j'arrête tout. Parce que bien, les choses ne vont pas dans le sens que je voulais. Si c'est ça, j'arrête tout. Ah, le Seigneur te dit, non. N'agis pas comme ça, ne réagis pas si vite. Mais rappelle-toi ceci, cette parole, elle va te permettre de dire, ah oui, après tout, j'ai compris. C'est pourquoi maintenant, nous allons essayer de comprendre que le Seigneur Jésus nous enseigne parce qu'il veut que nous puissions véritablement garder notre décision de rester attachés à sa personne. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu que Jésus va dire à un homme, « Toi, suis-moi. » Ah, il va dire, « Ah, mais Seigneur, je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord aller ensevelir mon papa qui vient de décéder. » Qu'est-ce que Jésus lui répond? Eh bien, voilà, vous connaissez bien la parole. Jésus leur dit, « Mais laissez les morts ensevelir leurs morts, mais toi, viens, suis-moi. » Qu'est-ce que le Seigneur Jésus enseigne là? Il le dit publiquement pour que nous, les disciples, nous puissions l'entendre et nous rappeler. C'est qu'il n'y a aucune affection, il n'y a aucun lien humain terrestre qui puisse être au-dessus de notre relation avec Jésus-Christ. Il n'y a personne ici-bas, pour toi et pour moi, qui puisse être placé avant Jésus. Jésus est au-dessus de tout. Et veut que tu comprennes que quand il t'appelle à le suivre, eh bien, il doit être le premier suivi. Alléluia. Il doit être le premier servi. Il doit être le premier à qui tu dois obéir. Car Jésus, il est tout pour nous. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur encourage ses disciples en disant, si vous voulez être mon disciple, si vous voulez me suivre, comprenez ceci. Il faut que vous puissiez mettre la priorité là où elle doit être. Comprenez que désormais, eh bien, rien d'autre ne doit passer avant moi. Vous devez être capable de renoncer même à vous-même pour pouvoir me suivre. Car celui qui agit ainsi, alors lui, rien ne pourra le détacher de moi. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc ce matin, s'il y avait une affection, s'il y avait quelque chose, un lien ici-bas qui est en train peut-être de t'entourer progressivement et qui est en train de te tenir en arrière, eh bien, brise ce lien. Brise ce lien et dis non, j'ai compris. Cette affection-là, cette relation, non, elle ne va pas briser ma relation avec Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia. La Bible nous dit, mes amis, ce qui peut nous permettre de rester fidèles en écoutant cette réponse que l'apôtre Pierre fait, nous allons le résumer par ces trois réalités qui vont nous aider, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'apôtre dit que ce sont ces trois réalités qui demeurent. Que sont-elles? Il dit, ces trois choses demeurent, vous les connaissez, la foi, l'espérance et l'amour. Tout est dit là dans cette réponse de Pierre. C'est à vous et à moi de comprendre qu'est-ce que cela signifie au quotidien pour le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui sait en qui il a cru. Donc, la foi que Dieu a mise dans nos cœurs, elle est venue de Jésus-Christ dont nous avons entendu parler. Et par cette révélation de Jésus-Christ, désormais, notre foi n'est pas dans une science, dans une religion ou dans un concept humain. Notre foi, elle est fondée en Jésus-Christ qui dit, « Moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. » Jésus qui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus veut que vous et moi, nous puissions comprendre que c'est lui la source de notre foi, et que notre foi étant fondée sur lui, eh bien, rien ici-bas ne pourra la détruire si vous et moi, nous gardons cette assurance que c'est en Jésus-Christ que nous avons tout trouvé, que Dieu soit béni. Alléluia. Oh, si je sais en qui j'ai cru, eh bien, on a beau me dire tout ce que l'on voudra, personne ne pourra nous faire changer d'avis C'est ce que je dis aux philosophes, c'est ce que je dis aux scientifiques, c'est ce que je dis à quiconque. Je dis ici-bas, personne ne peut me faire changer d'avis en ce qui concerne Jésus-Christ. On a beau me raconter des histoires, la Bible c'est écrit par des hommes, eh bien de toute façon, on sait que l'homme n'a pas été créé, il est né d'une succession d'évolutions, ainsi de suite. Mais tout ça, écoutez, croyez ce que vous voulez croire, mais moi je sais en qui j'ai cru. Je sais que Jésus-Christ, eh bien c'est le Dieu invisible qui est venu se rendre visible parmi les hommes afin de nous attester que Dieu n'est pas une invention humaine. Dieu n'est pas un concept, une idée comme cela venu dans le cœur des hommes. Dieu est un être vivant, un être réel. Dieu, c'est le Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui, par sa parole toute-puissante. Que son nom soit béni. Amen. Ce matin, il y a là, peut-être pour un jeune, une parole qui peut t'aider. Les gens veulent nous démontrer que Dieu n'existe pas en partant de la création. En vous disant, regardez, votre Bible dit des choses et la science dit le contraire. Les gens pourront souvent se fonder sur des choses en disant, vous voyez, la science a dit ceci, la science a démontré ceci maintenant. Eh bien, ne tombez pas dans ce panneau. Parce que, écoutez bien, l'homme qui réfléchit et l'homme qui pense et qui pense pouvoir tout expliquer. Et l'homme qui part des observations de cette nature, de cette création, il faut que vous et moi, nous puissions comprendre que Dieu existe avant toute création. Donc Dieu n'a pas besoin de prouver son existence. C'est vous et moi, les créatures, qui pouvons nous poser des questions sur Dieu. Mais Dieu ne se pose pas de questions parce que Dieu, lui, il est. Et quand cette création disparaîtra, Dieu est toujours. Alléluia. Dieu est et Dieu restera Dieu. C'est pourquoi, mes amis, ne vous laissez pas entraîner, embarquer par toutes sortes de théories qui viennent les unes après les autres pour essayer de vous séduire. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour démontrer son existence. Dieu est avant sa création. Que son nom soit béni. Amen. Alors ce matin, si vous avez compris cela, vous ne vous laisserez pas ébranler. Je parle aux jeunes. La parole de Dieu nous aide à comprendre que bien par la foi, eh bien, nous avons en nous cette puissance qui nous garde, nous permet de rester fermes. Car l'apôtre dit, voici, eh bien, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc la foi en Jésus-Christ me permet, eh bien, de résister à mes craintes, de résister à mes doutes, de résister à tout ce qui veut me fragiliser et à tout ce qui veut me détruire. Eh bien, la foi me fait triompher de tout cela. Alléluia. Et ce matin, Dieu t'encourage à raffermir ta foi en celui en qui tu as cru, Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni pour l'éternité. Amen. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu, mais c'est également par la foi que nous sommes dans cette communion avec lui. C'est par la foi que vous et moi, nous avons reçu le pardon de nos péchés. C'est par la foi que nous vivons notre foi et notre vie désormais sur terre. C'est par la foi que vous et moi, nous voyons l'invisible. Que vous et moi, eh bien, nous goûtons aux choses que les autres ne peuvent pas connaître ni goûter. Pourquoi? Parce que c'est uniquement par la foi qu'on peut les expérimenter. Voilà pourquoi vous qui avez la foi, n'allez pas vous imaginer comme eh bien, plus bête que les autres, excusez-moi l'expression. Mais au contraire, c'est vous et moi qui sommes plus intelligents que les autres. Alléluia. Car eux n'ont que l'intelligence, mais nous, nous avons plus que l'intelligence, nous avons la foi qui nous donne une intelligence supérieure. Une intelligence qui nous fait entrer dans les réalités invisibles et qu'on ne peut pas mesurer, ni quantifier, ni calculer. La réalité du Dieu Tout-Puissant est véritable. Que son nom soit béni. Amen. Oh, mes amis, si vous avez la foi, sachez et comprenez ce matin, eh bien, que vous avez quelque chose de supérieur. Que Dieu soit béni. Amen. C'est par la foi que non seulement nous vivons, mais c'est également par la foi que nous pouvons eh bien, triompher dans les difficultés que nous rencontrons. Parce que la Bible dit que bien, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue, qui n'ait été humaine. Mais qu'avec les épreuves, Dieu prépare toujours le moyen de nous faire sortir, de nous faire triompher, de nous en sortir. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que notre foi défaille. Donc vous et moi, nous pouvons demeurer fermes et fermement attaché à ce Jésus que nous bénissons. Alléluia. Et la foi, eh bien, elle nous permet Donc désormais, de ne pas être dans une croyance ou dans un système religieux. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, mais en fait, ils confondent foi et croyance. La foi que Dieu nous a donnée, elle est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et elle est, mais qu'on espère. Et elle est une démonstration. Donc la foi véritable, elle ne peut être que celle qui est issue de Jésus et qui est placée en Jésus-Christ. Alléluia. Il était l'invisible qui s'est rendu visible et qui après est retourné dans l'invisibilité. Alléluia. Mais qui est donc le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre foi est donc en celui qui ne change pas. Il n'y a pas de variation en lui. Donc les modes passent, eh bien les civilisations se succèdent les unes aux autres. Mais notre Jésus demeure toujours le même. Alléluia. Lui ne varie pas. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Il nous a aimés avant que nous venions à lui. Donc il nous aime éternellement. Alléluia. Donc ne pensez pas que s'il y a des difficultés, c'est parce que le Seigneur vous aime moins. Ou quand des fois on entend des témoignages dans l'église, un tel qui dit, oh Dieu m'a fait ceci, Dieu dit, un autre dit, oh Dieu m'a donné cela. Il vous dit, alors et moi alors? Non, il t'aime autant que celui ou celle qui a parlé. Alléluia, que Dieu soit béni. La foi en Dieu et en Jésus-Christ, eh bien, nous permet de réaliser et de voir ce qui aujourd'hui n'est pas encore accessible à la vue ni à nos sens, mais qui demeure plus réel que ce qu'on peut toucher. Car notre foi, elle nous entraîne dans cette espérance qui ne trompe jamais. Et Dieu veut que vous et moi, nous avons cru en Jésus-Christ par cette parole. C'est cette parole qui est la parole que dit Jésus, qui est une parole éternelle parce qu'elle est esprit et vie. Ce qui veut dire ce matin que ta foi, eh bien, elle n'est pas issue de quelque chose qui vient d'ici-bas, de quelque chose de ce monde, de quelque chose de matériel. Mais ta foi, eh bien, elle vient de l'invisible et de ce qu'on ne peut pas mesurer ni quantifier. Donc ta foi, elle est fondée dans cette réalité qui transcende tout. Dieu veut donc que tu te réjouisses d'avoir cette foi-là qui te permet de surpasser et de te dépasser. La foi qui, eh bien, elle se fonde sur la parole du Seigneur. Et quand cela se retire en disant, mais cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Dieu veut que nous comprenions que cette parole, eh bien, c'est par elle que toutes choses sont venues à l'existence. Car c'est par sa parole que Dieu a amené toutes choses à l'existence. Or, Jésus-Christ est cette parole qui est venue au milieu de nous, s'incarner. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pourquoi cette parole, même si elle te paraît dure, eh bien, il faut que tu saches qu'elle est la vie. Et que cette parole-là, qui t'a fait connaître les réalités cachées, et que ta foi, elle repose sur cette parole. Que Dieu soit béni. Amen. Donc ta foi, elle te fera trouver dans cette parole non seulement le fondement solide que rien ne peut ébranler, mais cette foi, elle te permettra également de puiser dans cette parole toutes les ressources dont ton âme a besoin afin de ne jamais être affamé, afin de ne jamais être dans une faiblesse qui te fasse lâcher la main du Seigneur. Car la parole, elle est plus que nourriture pour notre âme. La parole est la puissance de Dieu pour notre salut. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et cette espérance, maintenant, j'en viens, eh bien, elle est vivante, je vous disais, et Dieu veut que vous et moi, nous puissions comprendre que c'est l'espérance qui nous permettra de ne pas nous laisser détourner ni détacher de Jésus. Et une espérance vivante, parce que notre espérance, eh bien, dit l'apôtre, eh bien, elle traverse le voile. Elle va jusque dans le lieu très saint où il y avait l'accès réservé une fois l'an seulement au souverain sacrificateur qui s'est présenté avec du sang. Et donc notre espérance, puisque maintenant elle est en Jésus-Christ, nous savons que l'espérance que Jésus nous a donnée, c'est que désormais l'accès devant le trône de Dieu nous est ouvert pour que désormais vous et moi, nous puissions devant tous nos besoins nous approcher avec assurance, sachant que nous serons entendus et que le Père des cieux ne nous refusera rien qui soit utile et bon pour nous, parce qu'il est celui qui nous a tout donné lorsqu'il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Que son nom soit béni pour l'éternité. Alléluia. Donc ce matin, un encouragement pour quelqu'un. Si tu attends une réponse parce que tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé, tu as supplié, tu n'as pas encore reçu, eh bien ne te décourage pas. Parce qu'en réalité, tu as déjà reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Si le besoin qui est là, ponctuel, n'a pas encore été pourvu, mais sache qu'en réalité, ta vie ne dépend pas de la réponse à ce besoin ponctuel, parce que ta vie, elle est cachée en Christ. Et si ce besoin-là est vital pour toi, Jésus te l'accordera, même sans que tu aies besoin de pleurer. Parce que bien des fois, il nous a répondu avant même que nous demandions, parce qu'il est ce Père qui pourvoit nos besoins. Que son nom soit béni. Amen. L'espérance. L'apôtre dit, mais vous savez, c'est une espérance vivante. Il faut donc que vous et moi, nous puissions comprendre que si ce n'est pas seulement pour les choses de ce monde. Il dit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il dit, mais vous savez, si c'est ici-bas seulement que nous espérons en Christ, que dit-il? Alors, nous sommes les plus malheureux. Ça veut dire quoi? Que le croyant qui pense que bien, il faut croire seulement quand Dieu nous guérit, quand nous sommes malades, que Dieu nous bénit quand nous sommes dans le besoin, que Dieu nous secoue quand nous sommes dans la détresse, que Dieu répond. Et quand Dieu ne fait pas ces choses-là, mais l'apôtre veut que vous et moi, nous puissions comprendre que ce n'est pas pour ici-bas qu'il nous a sauvés, mais il nous a rachetés pour l'éternité glorieuse. Alléluia. C'est pourquoi la terre et ses convoitises passeront. Mais celui qui demeure attaché à Christ demeurera toujours. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il demeure pour l'essentiel, pour l'éternité glorieuse. Que Dieu soit béni. Amen. Donc notre espérance ne s'arrête pas ici. Notre espérance, eh bien, elle nous entraîne à garder dans notre cœur, eh bien, cette pensée qu'en fait, nous sommes en route vers l'éternité glorieuse. Alléluia. C'est comme cela que les martyrs, Étienne et tous les autres, eh bien, ont quitté ce monde avec la joie dans le cœur. Parce que, mes amis, ni l'épée, ni les cailloux n'ont pas pu ôter leur joie, ni leur espérance, ni leur paix. Pourquoi? Parce que leur espérance était là, dans l'éternité, au-delà du voile, du visible. Eh bien, ils voyaient. Étienne dira, vous rappelez? Eh bien, je vois le ciel ouvert et je vois le Seigneur Jésus debout. Alléluia! Mes amis, l'espérance, il faut qu'elle te garde quand tu es sur le point de glisser. Comme Asaph, comme vous vous rappelez le psaume 73. Ah, mes pieds étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce que, oh, j'ai regardé autour de moi, j'ai envié le méchant. Ah ben lui, il ne s'occupe pas de Dieu. Lui, non, non, il ne craint pas Dieu. Il vit sa vie comme bon lui semble. Et voilà, il ne lui arrive rien. Ah, il fait de l'embonpoint. Eh bien, tout va bien pour lui. Et tandis que moi, qui sers le Seigneur d'un cœur sincère, moi qui sers le Seigneur depuis tant d'années, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, il me manque ceci, il me manque cela. Asaph dit, mais j'ai réalisé qu'en fait, j'étais un insensé en pensant cela. Car j'ai oublié l'espérance qui est la mienne. C'est que pour moi, ce n'est pas ici et maintenant, mais pour moi, c'est l'éternité glorieuse dans la présence du Père. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Oh, ce matin, que Dieu nous aide les uns et les autres à le comprendre afin de rester attachés au Seigneur. Et je termine par la troisième réalité qui ne passe pas non plus. Pour ceux qui s'attachent au Seigneur, une dit c'est l'amour. Ah, l'amour. Dieu nous dit dans sa parole que son essence même, c'est l'amour. Dieu est amour. afin que vous et moi, nous puissions comprendre que si Dieu est descendu parmi nous au travers de Jésus-Christ, c'est parce que son amour, eh bien, le poussait à venir au secours de ceux qui avaient été privés de sa relation d'amour. Le Seigneur Jésus vient parce qu'il veut à tout prix qu'à nouveau nous puissions goûter à l'amour de ce Père et que ce Père puisse déverser son amour dans nos cœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu est amour. C'est un amour qui, eh bien, n'est pas quelque chose de confiné et de fermé. Non, c'est un amour qui sans cesse, eh bien, est en action, en mouvement, est répandu dans nos cœurs par le Seigneur, l'Esprit Saint. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, mon frère et ma sœur, ce matin, Dieu veut que tu comprennes que pour que tu tiennes ferme, pour que tu tiennes bon, pour que tu résistes jusqu'à la fin, il faut que tu aies beaucoup d'amour pour ton Sauveur. Il faut que tu aimes ton Seigneur par-dessus tout. Il faut que Jésus soit ton bien-aimé. Il faut que Jésus soit pour toi celui que tu aimes par-dessus tout. Plus que papa, plus que maman, plus que chérie, plus que ton mari, plus que quiconque. Que tu saches qu'il y a un amour qui est au-dessus de tous les autres, toutes les autres. Eh bien, c'est l'amour de Jésus. Alléluia. J'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier. Nous aimons Jésus parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a tout donné pour vous et moi par amour. Alléluia. Oh, Guy, mon ami, vous savez connu Guy, à quel Guy je pense? Bergamini. Il a dessiné Jésus sur la croix, les bras étendus. Et il dit, tu vois, mon ami, Jésus t'aime comme ça. Et quand tu vois Jésus baisser la tête, tu comprends qu'il est mort. Donc Guy nous dit, Jésus nous a aimés, pas seulement à la folie, mais il nous a aimés au-delà de la folie, Jésus nous a aimés à la mort. Aime-moi, sinon je meurs. Jésus est mort par amour pour toi et moi. Que son nom soit béni pour l'éternité. Alléluia. Donc ce matin, il est important que vous et moi, nous puissions comprendre que Jésus attend de nous, eh bien, de l'aimer par-dessus tout. Il a dit, pour relever Pierre qui l'avait renié, vous rappelez l'épisode de Pierre qui a renié 3 fois son maître et son Jésus. Pierre était prêt à tout donner pour Jésus. Il était, comme disent les gens, il était prêt à tout casser, même à couper l'oreille pour défendre Jésus. Mais il a renié Jésus. 3 fois il l'a renié. Mais la Bible nous dit, parce que Jésus l'avait aimé jusqu'à la mort, l'amour de Jésus demeurait pour Pierre. C'est pourquoi après sa résurrection, il vient eh bien, un matin au devant de Pierre. Il vient parce qu'il sait que son disciple bien-aimé eh bien, avait failli. Il savait que son disciple bien-aimé n'a plus bonne conscience parce qu'il l'a vu ressusciter, mais il n'est pas en paix avec lui-même, parce qu'il l'a renié 3 fois. Il est malheureux, parce que lui, il avait dit, même Seigneur, s'il faut aller jusqu'à la mort, j'irai à la mort pour toi et avec toi. Mais voilà que 3 fois, il avait renié. Alors, quand le maître vient vers Pierre, il vient dans les mêmes circonstances qu'au début. Il vient le matin d'une pêche infructueuse, que Pierre et 6 autres disciples venaient de vivre. Et Jésus dit, « Enfant, avez-vous pas quelque chose à manger ?» Bien sûr qu'ils n'ont rien, puisqu'ils n'ont rien pris. Alors, avancez en plein eau et jetez vos filets. Et quand ils jettent le filet, la barque est remplie. Alléluia. Ils disent à d'autres, « Venez nous aider, car les filets craquent. » Et alors, quand Pierre s'avance, celui qui les aime, celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, il avait préparé le petit déjeuner pour eux. Il avait fait du poisson braisé. Waouh, c'est bon ça. En plus, préparé par Jésus. Et donc, il dit, voilà, mangez. Et quand ils ont été rassasiés, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les autres? C'est ce qu'il avait dit. Quand il a dit, mais si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La troisième fois. Bon, c'est des mots grecs différents par rapport à l'amour. Ça parle de l'amour de Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Mais ça parle aussi de l'amour en tant que l'amitié que l'on peut avoir par quelqu'un, l'amour que l'on éprouve pour ce qu'on aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'aime. C'est sur cette base-là que Jésus relève Pierre de sa chute. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et puisque tu m'aimes, alors occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mes agneaux, travaille pour moi, parce que je ne t'ai pas renié. Je compte toujours sur toi, parce que je t'aime d'un amour inaltérable. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est ainsi que Pierre va être restauré et qu'il va devenir... on aurait pu dire plutôt c'est comme ça que Simon a été restauré et qu'il devient Pierre. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ce Simon-Pierre nous montre que ce qu'il avait confessé est véritablement ce qui va nous garder, nous aussi, ce matin, pour toujours. Il dit, Seigneur, à qui d'autre rions-nous? Car pour nous, toi, il n'y a personne au-dessus de ta personne. Seigneur, toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc même si elles paraissent dures aux hommes, même si elles paraissent des fois compliquées à comprendre, nous voulons croire que c'est des paroles qui communiquent la vie véritable, la vie éternelle. Alors Seigneur, maintenant nous savons qui tu es. Tu es le Fils du Dieu très haut. Ça veut dire quoi? Que Seigneur, tu as l'apparence humaine, mais ta réalité, c'est que tu es éternel. Et donc, Seigneur, toi, tu n'es pas un simple homme. Tu n'es donc pas un simple sauveur. Tu n'es pas un simple rédempteur. Donc, nous ne te suivons pas seulement parce que tu nous as sauvés et parce que tu nous as rachetés, mais nous te suivons pour bien plus encore. Parce que nous connaissons ta nature intrinsèque. Tu es éternel. Donc nous n'avons pas commencé à marcher avec toi pour quelques années, mais nous avons commencé à te suivre pour l'éternité. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut te rappeler ce matin, mon frère, ma sœur, afin que tu gardes la foi par-dessus tout et que tu triomphes en gardant l'espérance et que tu aimes ton Seigneur. Car la Bible déclare que le Seigneur Jésus vient bientôt. Et il viendra prendre ceux qui ont aimé son avènement. Et l'apôtre Paul nous dit dans deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4, voici, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et qu'est-ce qui attend? Eh bien, la couronne de justice. Le Seigneur me la donnera. Et elle sera donnée à moi, et pas seulement à moi seul, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Si nous nous battons et si nous persévérons, c'est parce que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Si tu ne le savais pas, mon ami, alors sache que Jésus revient bientôt. Et si tu le sais, alors attends avec persévérance, car Jésus revient bientôt. C'est pourquoi voici, je vous encourage par cette dernière lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, où l'apôtre nous dit, vous savez, au vu de tout ce que je viens de vous dire et que vous avez bien compris, sachez désormais que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent et qui gardent la foi pour être sauvé. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, ces trois choses qui demeurent, ma prière, c'est qu'elles gardent vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et que vous sachiez ceci, c'est que l'apôtre en a fait un sujet de prière et il dit, je prie pour vous et j'espère de tout mon cœur que la grâce de Dieu sera toujours avec vous et l'espérance sera toujours avec vous et que sa communion demeure avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ta parole.